Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour chers auditeurs et bonjour chers invités. J'ai en face de moi Simon Azéma, responsable, co-responsable du musée du site d'Ambroussoum. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, c'est pas la première fois qu'on s'entretient, loin s'en faut, puisque nous, ici, on a une passion pour Ambroussoum et tous les événements marquants qui s'y passent, notamment le dernier en date, c'était donc l'événement Lego des dernières vacances de Toussaint, événement qui va se prolonger un petit peu, je crois, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. On a eu énormément de personnes intéressées, des passionnés, et on n'a pas pu accueillir tout le monde. Donc, on a décidé de prolonger en fait la détention, on va dire, de la maquette Lego. On va la redémonter et la refaire monter à ceux qui n'ont pas pu participer à son montage au mois de février pendant les vacances d'hiver.
Donc, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il est grand temps de réserver. La dernière fois, ça a été pris d'assaut et c'est bien pourquoi vous avez dû jouer les prolongations. Donc, ça, c'est la preuve que ça a été un succès monumental. Et ensuite, quand ce sera terminé, ben moi, je viendrai faire des photos de l'ensemble parce que j'ai quand même hâte de voir de quoi ça a l'air. Alors là, aujourd'hui, on parle d'un autre événement et qui lui aussi a eu droit à un écho dans la presse et dans beaucoup de journaux, y compris dans la presse nationale, puisque on a appris que suite à un procès qui a eu lieu au printemps dernier, eh bien, une pièce de collection revient dans ce musée d'Ambroussoum. Quelle est cette pièce ?
Alors, il s'agit d'une pièce qui est très particulière, puisque à ce jour, nous avons 6 exemplaires connus. Et c'est une pièce qui est propre à Ambroussoum, sans doute frappée localement par les habitants d'Ambroussoum. Et donc, qui est une pièce toute particulière. On n'en a jamais retrouvé ailleurs qu'ici. Et qui est vraiment une émission monétaire locale très importante pour nous, puisqu'elle révèle tout un pan de l'histoire. Du site archéologique, finalement, de l'agglomération, de son autonomie et de sa puissance à l'époque gauloise puis romaine.
Oui, alors on va peut-être avoir du coup l'occasion de dire qu'il y a eu d'abord des interprétations différentes, dire qu'il y a plusieurs campagnes de fouilles qui vous avaient permis de trouver des pièces sur le chantier. Et dans cette série de pièces, on pensait qu'il s'agissait de pièces gallo-romaines. Et en fait, les études prouvent que ce n'est pas tout à fait ça.
Tout à fait. Alors, dans les années 80, deux pièces ont été très mal conservées, ont été retrouvées par les archéologues. On arrivait à lire partiellement la légende de ces pièces. On a interprété sur l'avers une face masculine casquée, donc qu'on a interprété comme un romain finalement. Et à l'avers, dans les cantons de la roue d'un char, on a cru lire les lettres AMBR. Et à cette époque-là, le contexte de découverte archéologique n'est pas tout à fait clair, en fait, en place. Donc, des pièces difficiles à dater, et on les interprète comme étant des pièces romaines, finalement, qui témoignent de l'autonomie de l'agglomération à l'époque de César, finalement.
Oui, parce qu'on rappelle
que... ces agglomérations qui avaient une certaine autonomie, finalement.
Oui, on rappelle que le fait de frapper monnaie, ça prouve en effet une certaine autonomie, indépendance. Et on sait par exemple que pour l'As de Nîmes, c'est très important de le savoir. Donc on va peut-être rappeler le nom des archéologues. Je crois qu'il s'agit de Maxime Skrinzi et Marie-Laure Le Brasidec, qui ont travaillé là-dessus et qui ont démontré quoi alors ?
Alors finalement, oui, tout à fait, de manière plus récente, Marie-Laure Le Brasidec, qui est numismate et donc qui assiste Maxime Skrinzi dans la direction scientifique du chantier archéologique entre 2016 et 2024, on a en 2018 découvert un nouvel exemplaire, donc un troisième exemplaire de cette monnaie, cette fois beaucoup mieux conservée, en place dans les niveaux archéologiques. Et là, on lit distinctement qu'on a une tête plutôt féminine, avec un casque de type grec, hein, avec un signet, vraiment l'archétype du casque grec, et une tête féminine, donc plutôt une référence à Athéna, en tout cas une déesse tutélaire. Et sur l'avers, on va avoir non pas les lettres AMBR, mais on va lire les lettres AMBP. Alors pourquoi ce P? Parce que finalement, l'indice est dans le casque, on va dire, de l'avers, c'est pas un P latin, c'est un rho grec. La lettre R en grec s'écrit comme notre P
Oui.
dans l'alphabet latin, finalement. Et donc là, on revoit finalement de quasi plus d'un siècle la datation de cette monnaie. Elle n'est non pas romaine et frappée à l'époque romaine, mais plutôt finalement gauloise. On l'interprète plutôt, enfin, on la situe plutôt aux alentours du 2e siècle avant notre ère. Donc juste à la jonction finalement, à peut-être avant l'arrivée des Romains et la romanisation effective, et donc une pièce plutôt gauloise. Alors ce qui est encore plus intéressant pour nous finalement, c'est que d'une part, ça démontre deux choses qui sont assez fondamentales. Premièrement, on savait que le nom d'Ambrosum a désigné la ville romaine et a désigné le relais routier, le relais d'étape sur la Via Domitia. Parce qu'on avait plusieurs sources, hein, finalement, la fameuse table de Peutinger, qui est une reproduction d'une carte du 3e siècle. On avait également les gobelets de Vicarello, donc qui sont ces gobelets sur lesquels sont gravées toutes les étapes de la Via Domitia, et donc où figure Ambrosum. Et finalement, cette monnaie-là, elle vient nous dire que le mot d'Ambrosum, ou du moins le début, la première syllabe, est antérieure à l'arrivée des Romains. Donc ça veut dire que le lieu s'appelait déjà Ambrosum, ou du moins Ambre quelque chose, avant l'arrivée des Romains. Donc certainement un dérivé d'un mot gaulois hein, qu'on ne comprend pas, on n'a pas le sens hein, de ce que ça veut dire. La deuxième information importante, au-delà du fait de l'antériorité du nom par rapport à la période romaine, c'est que souvent les Gaulois ne mettent pas forcément le nom de la ville sur leur monnaie, mais le nom de leur ethnie. Ce qui veut dire qu'on avait finalement une ethnie parmi la confédération des Volcarecomiques, donc cette grande tribu, ce grand ensemble de tribus qui va dominer un territoire assez large entre le Rhône et l'Hérault, avec pour capitale Nîmes. Eh bien, on va avoir des oppidas, donc des installations qui ont une identité propre finalement. Et Ambrosum va être l'un d'eux. En fait, on a vraiment une identité. Une ethnie gauloise propre localement.
Oui, au cœur du territoire, donc des Volcarecomiques, et avec un atelier de production qui se situerait où alors?
Alors, c'est difficile à dire. On pourrait imaginer avoir un atelier de frappe monétaire ici à Ambrosum, hein, donc qui est pas du tout mis à jour pour
Oui, vous
mise à
n'en
jour
avez
pour le
trouvé
moment.
aucune trace de ça pour l'instant.
Non, non, non. Alors, on a encore 90% du site à fouiller, hein, ce qui laisse quand même un champ des possibles assez vaste. Mais en fait, la proximité stylistique, on va dire, avec les Monets de Marseille, on a vraiment la même esthétique que les petites oboles de Marseille qu'on va retrouver avec le M et le A plutôt que le M Béraud. On pourrait imaginer que la production de ces pièces, enfin la frappe en tout cas, se passe plutôt du côté de Marseille et que les échanges font qu'on va finalement commander un type de pièce sur les ateliers monétaires de Marseille. C'est une possibilité, il y a ces deux possibilités-là. Donc, soit ça viendrait plutôt de Marseille et de ses environs, soit l'atelier de frappe monétaire est local.
Oui, peut-être à Nîmes, ce serait une hypothèse également, je crois, non?
Peut-être plus difficilement parce que l'esthétique globale est quand même assez éloignée des monnaies de Nîmes, des monnaies des Volques pour le coup. Ça se rapproche vraiment plus de Marseille, stylistiquement en tout cas. Donc on se pose la question, finalement, on a peut-être une proximité avec les Grecs installés à Marseille plus importante que ce qu'on supposait avant.
Donc oui, c'est drôlement important ces monnaies, c'est pas simplement beau et c'est un alliage de bronze, hein, je crois, intéressant. Donc c'est une belle pièce déjà, c'est le cas de le dire.
Oui, alors ce sont des toutes petites monnaies, hein, c'est ce qui fait la particularité de ces petits bronzes de l'époque. Elles sont toutes petites, hein, elles font moins d'un centimètre, parfois moins d'un gramme pour certains exemplaires, mais elles sont quand même finement gravées et avec des détails plutôt intéressants.
Oui, alors il y en a certaines qui sont sans inscription et d'autres avec, hein, dans la série que vous avez.
Alors là, c'est plus une histoire de. conservation
Ah
finalement,
bon,
puisque
d'accord.
bon, c'est des tout petits exemplaires, donc elles sont plus ou moins râpées, mais on en a sur 6 exemplaires désormais connus. Il y en a 4 plutôt bien conservés finalement, qui sont lisibles très distinctement.
Donc, est-ce que à chaque fois il y a un visage, un dessin et une inscription ou pas forcément?
Oui, là sur les 6 exemplaires, on a les 4 lettres contenues dans les contours de la roue d'un char et une figure avec un casque sur l'avers.
Avec donc cette fameuse
Un profil.
roue gauloise. Et donc, toute cette trouvaille, c'est pas simplement, je disais, de beaux objets qui doit être fort émouvant de sortir de terre. Au fait, elles étaient à une profondeur importante ou pas?
Alors, c'est difficile, on va dire, à estimer. Non, c'est pas très profond. En fait, au sommet de l'oppidum, il y a une érosion qui est déjà très importante. On a certaines zones, le sol romain n'est même pas conservé. Finalement, on va faire plutôt de la fouille de fondation pour comprendre les bâtiments, mais le sol d'occupation n'est pas forcément conservé. Et donc, dans ces zones-là, bon, tout dépend de l'installation, en fait, et de la transformation du terrain faite par les Gallo-Romains. Mais on peut retrouver ces monnaies sous quelques dizaines de centimètres de sédiments.
Donc, je disais, c'est à la fois un moment émouvant, un moment esthétique, et puis, comme vous l'avez bien dit, ça souligne qu'en Broussum, ben, on le savait déjà, mais là, ça paraît très précis. Non seulement on n'est pas né avec les Romains, mais qu'il y avait, puisqu'on a coutume de dire que les Gaulois n'ont pas d'écriture, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a des liens avec les Grecs.
Oui, ça fait partie des objets finalement, parmi d'autres, hein, parmi des perles assez typiques qu'on peut retrouver à l'autre bout de la Méditerranée. En fait, ça témoigne de l'ouverture qu'il va y avoir sur les peuples de la Méditerranée, sur les échanges commerciaux, sur justement l'habitude de recevoir des cultures différentes. En fait, c'est vrai qu'on a de moins en moins l'image du Gaulois enfermé dans son petit village, mais en réalité, là, c'est ce genre de pièces témoignent des échanges vraiment permanents et incessants avant l'arrivée des Romains, finalement. Et donc d'une ouverture beaucoup plus précoce que ce qu'on pourrait imaginer.
Et alors, ces monnaies, on parlera après de la monnaie qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui et qui a un statut à part, on va expliquer pourquoi, mais ces monnaies, on les voit dans votre musée.
Alors, pour le moment, non, pas réellement, puisque les 2 premiers exemplaires découverts dans les années 80 appartiennent à une collection privée,
Ah oui, c'est vrai.
puisque ce sont des fouilles programmées et donc le propriétaire du terrain, selon les lois de l'archéologie de l'époque, était propriétaire à 100% des découvertes. En revanche, on a une vitrine dédiée à cette monnaie avec un moulage précis qui a été réalisé. Et ensuite, les autres exemplaires découverts depuis sont à l'étude et sont en restauration actuellement. Pour certaines ont déjà été restaurées et vont faire partie du futur programme scénographique, puisque les objets mobiliers découverts depuis 2016, intégreront le musée dans les années futures avec une nouvelle scénographie. Et donc ces pièces de monnaie prendront toute leur place, évidemment, dans cette future scénographie.
Et donc, on sait à peu près dans quel endroit du musée. Vous allez tout revoir l'organisation ou alors vous allez lui faire une petite place?
Alors non, on va essayer de revoir toute l'organisation parce qu'on a vraiment des objets qui remettent en cause, mais en tout cas qui ajoutent quand même énormément de contenu sur la connaissance du site de manière globale. Et donc on va réfléchir à une transformation quand même assez importante.
Et quand vous dites dans quelques années, c'est dans 5 ans, ou c'est plus proche? On ne sait pas.
Alors j'aurais du mal à vous répondre puisque c'est. Alors on y travaille. Il y avait une première phase de restauration qui est quand même assez longue, hein, puisqu'il y a des objets qui sont très corrodés, qui restent dans des bains de déchlorination pendant plusieurs mois, voire années. Donc c'est un travail qui est assez long. Il y a un travail d'étude ensuite. Et puis bon, bah, le nerf de la guerre, hein, tout dépend des budgets,
Et
des
voilà.
possibilités d'aide, des subventions pour refaire certaines parties du musée.
Et alors, elles sont dans un laboratoire, dans ce bain en question, ou bien elles sont au musée?
Alors, pour celles qui sont restaurées, on les a récupérées, donc elles sont en réserve, elles sont conservées chez nous. Mais en effet, ce sont des laboratoires de restaurateurs agréés par l'Institut national du patrimoine. Et donc, voilà. qui œuvrent finalement à rendre une lisibilité, à nettoyer les restes de sédiments qui peuvent être coincés dans les gravures, par exemple sur les monnaies, et mettre une patine figée finalement pour arrêter les points de corrosion active,
Eh
par
oui.
exemple, pour éviter la dégradation.
Alors, on ne va pas dire, vous allez voir la transition parfaite, on ne va pas dire où se trouvent ces laboratoires de peur qu'ils ne soient pillés, puisqu'il faut en effet faire attention au vol. Et c'est ce dont nous parlerons dans un instant après une pause musicale pour parler de cette affaire, de cette enquête, car la première enquête, ça a été de sortir les pièces, c'était l'enquête archéologique. Puis ensuite, mesdames et messieurs, il va y avoir enquête policière. À tout de suite, Simon.
Je me souviens, ma mère m'aimait et je suis aux galères. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, te bats pas comme un sauvage, t'amuse pas comme les oiseaux. Elle me disait d'être sage. J'ai pas volé, je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais que chaque jour soit dimanche. Je me souviens, ma mère pleurait dès que je passais la porte. Je me souviens comme elle pleurait, elle voulait pas que je sorte. Toujours, toujours chez les filles, fais donc pas toujours ce qui te plaît. Dans les prisons, y a des grilles. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai cru Madeleine. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais pas lui faire de peine. Un jour, les soldats.
C'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo, consacrée sur Radio Alliance Plus à une enquête, une véritable enquête qui s'est passée. Ça pourrait être un escape game, mais c'est pas vraiment drôle de penser en ces termes, car il y a vraiment eu un délit qui a dû choquer pas mal de gens concernant une pièce dont on va parler maintenant avec Simon. Cette pièce, il me semble qu'elle avait été volée en 2023, en septembre 2023, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler ce contexte-là, entre 2016 et 2024, un chantier archéologique a eu lieu tous les mois d'août. Donc, c'est un chantier d'archéologie programmé dont l'objectif est vraiment la connaissance scientifique de l'histoire du site. Et donc, c'est le forum romain et des structures antérieures, des habitats gaulois, des bâtiments publics qui ont été fouillés à ces occasions-là. Ce sont des fouilles archéologiques qui sont dirigées par un archéologue qui s'appelle Maxime Scrinzi et qui est un chercheur associé au CNRS, donc en archéologie. Et donc, des fouilles évidemment autorisées par les services de l'État, le service régional d'archéologie notamment. Et en fin de chantier, en 2023, alors que le chantier est barriéré, clôturé pour des raisons évidemment de sécurité, puisqu'on fait des trous, hein, globalement, mais aussi des notions de conservation et de protection, eh bien, une nuit, un individu s'introduit sur le chantier en cours de fouille. C'est important de le préciser, donc un
Oui.
chantier interdit, un qui est largement signalé. Et avec un détecteur de métaux, va littéralement à la pioche saper tout le travail des archéologues qui essayaient de comprendre les couches archéologiques, puisque on va, enfin, l'individu en l'occurrence, va faire d'énormes trous dans le sol à la recherche de pièces de monnaie, notamment, ou d'objets métalliques en tout cas. Et donc, va faire largement des dégâts finalement. Vraiment important. Et donc, il va piller et voler le chantier de fouilles en cours, voler des objets qui sont en passe d'être découverts de manière scientifique. Et donc, on a une perte d'information au-delà de la perte des objets, une perte d'information majeure, puisque les couches archéologiques sont des ressources patrimoniales qui ne sont pas renouvelables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est fouillé, où c'est retourné, vous ne pouvez plus lire, dater les couches archéologiques comme il faut, avec le matériel qu'il faut, puisque tout est retourné, tout est mélangé. Donc là, on a une double perte, hein, c'est-à-dire que des objets disparaissent, et en plus, le secteur devient extrêmement difficile à analyser. On perd ce pourquoi les archéologues sont là, finalement.
Et alors, vous vous en êtes aperçu parce que vous l'avez vu, ou bien c'est après coup, ça s'est passé 2 jours, 2 nuits, quand c'était?
Alors, quand c'est comme ça, bah, c'est des vols, hein, qui se passent de nuit. Et donc, quand on revient sur le terrain le lendemain matin, sous le géotextile de protection, on voit que ça a bougé. Et donc, on a d'énormes trous de manière comme pas des trous d'obus, mais quasiment, qui sont répartis sur le terrain, sur des zones en cours de fouille, sur des zones pas encore fouillées, de manière assez aléatoire, et on voit donc la terre retourner, ses trous, mais aussi tout ce que le pilleur n'a pas pris qui ne l'intéressait pas. Parce qu'il faut bien imaginer que chaque bip du détecteur de métaux n'est pas forcément intéressant.
Eh
Vous
oui.
avez des clous, vous avez des morceaux de fer totalement informes parmi les objets intéressants, donc il y a des rebuts. Et il y a aussi tout ce qui n'est pas prélevé par le pilleur, c'est-à-dire des objets en céramique qui sont cassés puisque ça a pris des coups de pioche et des coups de pelle. Ça se voit évidemment assez rapidement. Donc à partir de là, on sait qu'il y a eu pillage et finalement, on arrive à identifier la personne. Alors, par le biais de la police, hein, il y a une plainte évidemment qui est déposée pour vol.
Oui, ça ne s'est pas fait tout de suite hein, de le découvrir, hein, parce que apparemment il a fallu remonter parce que ça avait été
Bien
revendu
sûr.
entre-temps.
C'est ça. Et en fait, c'est la revente qui nous a permis finalement d'identifier le pilleur et de retrouver la pièce. Alors, c'est en effet, entre guillemets, entre grands guillemets, une chance, c'est-à-dire que sur Internet, on a pu finalement voir une publication du pilleur en question sur la monnaie, une gallo-grecque propre à Ambrosome. Donc on savait que c'était la nôtre et on savait que la personne qui publiait ça était évidemment le pilleur.
Oui, alors
Donc
donc
c'est
c'est
par.
si j'en crois la presse, parce que je n'ai pas vos connaissances précises, mais on est d'abord tombé sur un collectionneur dans le Var qui a dit qu'il avait acheté en toute bonne foi, et puis ensuite on est remonté jusqu'à ce criminel, alors qu'on appelle gentiment, parce que c'est finalement un métier, je vais bien le dire, détectoriste, celui qui utilise donc un appareil pour détecter les métaux. Alors, on peut le faire pour son loisir, on peut le faire aussi pour revendre, hein, pour le commerce et du business. Donc là,
Alors,
oui.
on peut, mais on n'a pas le droit.
Voilà, on peut. Alors, c'est justement là où nous voulons en venir parce que les gens pensent peut-être que tout ce qui est dans la terre, on a le droit de le prendre, d'une part, qu'on peut s'introduire chez les gens parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. On a le droit, mais non, on n'a pas le droit du tout. Et la loi punit très sévèrement ces fouilleurs qui prétendent collectionner en quelque sorte.
Alors, faut savoir en fait tout simplement parce qu'on entend de tout et une bonne part des détectoristes ont en plus d'exercer une activité totalement illégale, ont une mauvaise foi sans nom. Mais si on regarde la loi, hein, tout simplement, le Code du patrimoine, l'article 542-1, Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'histoire de l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche.
Ben
Donc,
c'est clair et net, hein.
c'est assez clair. Voilà. Donc, ça veut dire que pour utiliser un détecteur, il faut absolument l'autorisation du propriétaire du terrain, d'une part, mais qui ne suffit pas. Il faut absolument une autorisation préfectorale, et donc c'est l'État qui va dire oui ou non, vous avez le droit d'utiliser un détecteur. À savoir que les archéologues peuvent utiliser un détecteur de métaux pour vérifier si rien n'est passé dans le seau, dans la terre qu'ils ont fouillé. Sachant qu'on ne fouille pas uniquement avec le détecteur, ça c'est une chose, mais pour tout usage, on demande l'autorisation au service régional d'archéologie dans tous les cas. Donc même quand on est archéologue chevronné, diplômé, on est dans l'obligation de demander l'autorisation. Donc la loi est très claire, d'autant que là, parfois on peut entendre des arguments de détectoristes qui disent oui, mais sans nous, on n'aurait jamais retrouvé cette pièce. C'est entièrement faux, puisque c'était sur un chantier en cours.
Eh oui.
Donc, ces pièces étaient en passe d'être découvertes dans tous les cas. Et si vous venez piller un site archéologique comme Ambrossum, vous savez sciemment ce que vous faites. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'autre. On a identifié, ce n'est pas la découverte d'un site. On sait très bien qu'il y a des choses à découvrir, qu'il reste 90% à fouiller, et c'est en cours, c'est en passe d'être fait finalement.
Oui, alors les textes sont très
Donc il n'y a pas
clairs
de.
et vous m'aviez envoyé des tableaux aussi très clairs pour dire quelles sont les peines encourues, qui sont des contraventions, des amendes très fortes et même parfois des travaux d'utilité générale. Un jugement rendu à Carpentras dans le Vaucluse avait par exemple condamné à 200 000 euros d'amende. C'est le tribunal judiciaire de Carpentras, donc un collectionneur de monnaie qui avait ainsi, est-ce qu'il s'en était mis plein les poches avec des objets archéologiques. Donc la loi contrôle ça très fort et nous sommes très contents que vous ayez pu récupérer votre pièce qu'on ne tardera pas à aller admirer. Merci beaucoup Simon.
Merci à vous.
Et
Merci pour
n'oubliez
votre
pas
émission.
que la loi, ben, il faut la respecter, ici comme ailleurs. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.